Bonsoir et bienvenue dans votre émission Manu aux manettes, on est ensemble jusqu'à 22h. Et attention, ce soir, c'est une spéciale, semi-spéciale Halloween, puisque même, je sais, Halloween s'est passé, c'était la semaine dernière, mais nous n'avons pas eu le temps de fêter Halloween dans cette émission. Donc vous allez voir que ça va être un petit peu différent sur certains thèmes. Par exemple, si je dois mettre un thème tout de suite pour faire les choses bien, on va commencer comme ça. C'était évidemment pas ça. Et là, on commence à avoir peur, évidemment. Qui va-t-on tuer ce soir? Là est la question. Alors, on est ensemble jusqu'à 21h, vous le savez. Et, je vous l'ai dit, un semi-thème différent ce soir. Un peu d'Halloween, un peu de peur, un peu d'étrange, j'ai envie de vous dire. Même dans les chroniques, ça va se retrouver. Alors, commençons par les présentations. Ce soir est avec nous quelqu'un qui n'est pas revenu depuis très longtemps. Quelqu'un que l'on attendait, qui n'est pas revenu depuis 3 ans, qui est venu nous dire bonjour. Mais avant de parler de lui, nous allons commencer tout de suite avec Mathilde. Bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir, ça va très bien, mais j'aimerais bien des accueils comme ça aussi quand je viens, s'il te plaît.
Eh bien, à la prochaine, tu auras ce genre d'accueil, Mathilde. Alors Mathilde, comment ça va? Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir?
Eh bien, vous verrez ça plus tard.
Super, ça fait plaisir. En fait, tu vois, moi j'ai
bonne
dit
introduction.
Bonne introduction, on est bien.
On est bien,
super. Elle est également avec nous ce soir. Elle nous fait peur avec sa chronique sur les rites, les rituels et les choses intenses. Bonsoir Anaïs, comment vas-tu?
Bonsoir, écoute, ça va très bien, merci.
Ça va?
Ça va.
Et toi, est-ce qu'on peut savoir ce que tu nous as préparé ce soir ou il va falloir aussi attendre?
On va parler de rituels.
Comme à chaque fois,
c'est voilà, ça. C'est ça.
Eh bien, cette émission part déjà en cacahuète. Eh bien, merci, ça fait vraiment plaisir. On va changer de thème. On va changer de thème juste pour présenter celui que nous n'avons pas vu depuis 3 ans. Celui dont on a exorcisé le démon qui était en lui. Et c'est pour ça qu'il est de retour ce soir. Il est avec nous. Ronald, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va, Ronald? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans cette émission.
Bah écoute, très bien, j'ai changé quelques petites choses, mais je dirais pas quoi.
On verra
en photo sur le Facebook.
On verra en photo ce soir sur l'Instagram. Mais...
Instagram, excuse-moi, je suis encore à l'ancienne.
C'est une autre époque.
Trois ans, il a pas eu le temps de s'y mettre, c'est pour ça.
Et joyeux Halloween à tous.
Joyeux Halloween, ouais, c'est ça. Exactement, allez, on est ensemble jusqu'à 21h. On vous l'a dit, semi-thème Halloween, semi-thème de la peur. On vous mettra les photos de ce qu'on vous a fait aussi pendant Halloween. Vous allez voir, c'était très très sympa. Et on va évidemment commencer par quelque chose que vous appréciez. On va même pas commencer par ça, on va se faire autre chose. Ouais, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on va se faire ce soir? On va se faire tout simplement un autre petit jeu. Et ouais, j'ai envie de voir avec vous. Je me suis dit ce qui pourrait être sympa avant de faire le petit trou dans cette émission, ce serait le sujet du jour. Et le sujet du jour, attention, je vous le dis, soyez prêtes et prêts, mesdemoiselles et messieurs qui nous écoutez ce soir, les auditrices et les auditeurs, écoutez, j'aimerais vous parler du poop shaming.
Oula.
Le poop shaming, on dirait presque un vrai poisson d'avril, cette info. À votre avis, qu'est-ce que le poop shaming?
Bah, vraiment, enfin, si tu traduis littéralement,
oui,
c'est la honte du caca, quoi. Enfin,
la honte du caca.
Très évolué.
Qu'est-ce que c'est pour vous?
C'est censé nous inspirer quelque chose, c'est ça?
C'est une actualité, une vraie actualité. C'est le sujet du jour qui a déjà eu la honte du caca. Qui a cette... Pour vous déjà, qu'est-ce que la honte du caca?
Bah, le problème, c'est que je sais pas, je comprends pas.
Tu comprends pas?
Non, je ne comprends pas.
Est-ce que quelqu'un comprend ici?
D'en parler ou?
Non. Ah. À votre avis.
La honte de faire en public. Ou que ça pue.
De se faire dessus?
Non, non, pas se faire dessus.
Tu vas loin,
non,
Manu.
Tu vas beaucoup trop loin.
La honte de faire tout court, peut-être, la... en relation de couple.
On fait pas en public.
Voilà, exactement, voilà. C'est ça. On est là-dedans. Est-ce que soit ça t'est déjà arrivé?
De me retenir une semaine, oui, tout à fait.
Non, pas une semaine.
Début de relation.
Mais de te retenir pendant une relation, tu dis non, je vais pas le faire chez lui, j'ai pas envie qu'il entende.
Mais de toute façon, je ne fais pas caca. Donc ça résout le problème.
Okay.
Les princesses ne font pas, voilà, ouais, pas la grosse commission.
Pas la grosse commission. Je croyais qu'ils faisaient que des paillettes, mais bon. Et toi, ça t'est déjà arrivé ou toi tu t'es dit non, j'ai pas peur, enfin je m'en fous.
Écoute, je pense comme toute personne normalement constituée. Donc je te demande pas à toi, mais je pense que ça arrive à tout le monde en fait en début de relation.
Ouais. Début de relation, et toi donc?
Ah oui, en début de relation, on essaye de garder un peu de glamour.
Puis eh bien, au moment,
on se rend l'évidence, quoi.
Et c'est exactement ça, le poop shaming. Donc dans notre société, il existe un certain nombre de choses terriblement naturelles qui sont parfois l'objet donc de tabous pour certains, des tabous qui sont parfois insurmontables. Eh bien, la question des toilettes, donc, ou plutôt de ce qu'on y fait, hein, comme on l'a dit, c'est l'un de ces problèmes insurmontables, entre guillemets, de ces tabous plutôt. Si l'on peut lancer donc plus facilement à toute une tablée que l'on s'absente pour aller faire pipi, on tâche en revanche de se faire discret lorsqu'il s'agit de faire la grosse commission. Et une gêne qui peut donc prendre des proportions insoupçonnées dans les premiers temps d'une relation amoureuse lorsque l'heure est venue de faire ce que l'on a à faire. Et que l'autre se trouve juste de l'autre côté d'une porte toujours trop mince. Ce problème donc, Jérémy Briffaut, c'est donc un Français, a été donc confronté, sauf qu'au lieu de baisser les bras, il a cherché et trouvé une solution. Il a inventé, créé la mousse à plouf.
Mais sinon, si tu mets du papier toilette, ça fait pas plouf.
Attends, justement,
non, parce que
on
pour
en parle.
Hein, pour ceux qui sont un peu en détresse, là, mettez du papier toilette.
Mais justement, et ben lui, il a expliqué que ça fonctionnait pas toujours. Mais attendez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Pour remonter donc aux origines de la mousse à plouf, il faut regarder pas moins de 3 ans en arrière. Hein. C'est là que commence son histoire avec sa compagne. Et donc tout au début du Covid, tout était parfait entre nous. On s'entendait à merveille. Assez rapidement, elle a commencé à laisser des affaires chez moi. Mais je ne comprenais pas qu'elle parte systématiquement tous les 3 ou 4 jours. Se souvient le trentenaire originaire du Pas-de-Calais.
Et 3 ou 4 jours quand même.
3 ou 4 jours.
Ouais.
Et là, il se dit, est-ce qu'il y a un secret? Et pour en avoir le cœur net, Jérémy a pris sa compagne entre 4 yeux. Et celle-ci a fini par lui lâcher l'inavouable vérité. Par gêne, par peur du jugement, il lui était impossible de faire sa grosse commission chez son amoureux. Stupéfait par cette révélation, Jérémy donc a entrepris des recherches sur internet à ce sujet. C'est là que je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un vrai problème de société. Ce que l'on appelle le poop shaming concerne quand même 76% des femmes et 62% des hommes en France, explique-t-il donc. Jérémy n'a évidemment pas pensé tout de suite à inventer la mousse à plouf. On a essayé le papier toilette au fond de la cuvette, mais ce n'est ni efficace contre les odeurs, ni écologique, reconnaît-il. Et l'idée de génie lui est venue en demandant conseil à une ex. Très bien, le gars va voir son ex.
C'est très sain cette histoire.
Très très sain. Elle m'a dit de tester le liquide vaisselle dans les toilettes, ça ne marchait pas, se souvient-il, mais je me suis dit qu'on tenait quand même quelque chose. Et oui, tout seul dans un coin de son appartement parisien, Jérémy s'est improvisé chimiste, mélangeant donc des ingrédients pour obtenir une mousse assez dense pour amortir la chute. Éviter les éclaboussures, contenir les odeurs tout en étant inoffensif pour le derrière et la nature. Mon métier de comédien, les à côté du serveur, ça m'a pris 3 ans pour mettre au point la bonne formule, celle, qui est en vente aujourd'hui, assure le trentenaire. Et quand il lance son produit en août dernier, essentiellement sur TikTok, Jérémy ne s'attendait pas à un tel engouement. Sous les vidéos de présentation de la mousse à plouf, certains internautes jurent dans les commentaires que cette invention leur a sauvé la vie. Eh oui.
C'est un peu exagéré quand même, sauver la vie.
Je pense aussi. Les commandes pleuvent à tel point que la production ne suit plus. Comptez 4 semaines de délai pour recevoir votre mousse. Récemment installé à Strasbourg, l'entrepreneur ne se consacre plus qu'à son produit miracle, toujours fabriqué et emballé à la main dans sa salle de bain. Je ne pensais pas en faire.
Bah alors, on a un petit rototo.
Mon métier un jour, et là j'en suis à chercher des investisseurs pour me développer et acheter ma machine qui me permettrait d'augmenter la production. S'étonne-t-il, d'autant que l'intérêt pour la mousse à plouf dépasse désormais les frontières de l'Hexagone, Belgique, Suisse, Luxembourg et Québec. Le trentenaire est sollicité, comme quoi la gêne des uns font le bonheur des autres.
Je suis pas intéressé, mais ils vendent combien son truc?
C'est ce que
Eh ben, c'est le tarif que j'ai pas encore trouvé. Et c'est
ah, ça okay, que merci. Je voulais. Merci. Le tarif. Manu nous a donné une info là qui ne sert à rien.
Un produit, voilà, de mousse à plouf. Déjà, c'est un nom assez drôle, mais tu nous donnes même pas le tarif.
Je n'ai pas trouvé le tarif. J'ai trouvé ça bizarre que dans un article totalement. Voilà, j'ai pas encore trouvé le. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est un fail. Ça, c'est un poisson d'avril qu'ils ont sorti maintenant. J'arrive pas à croire que ça peut fonctionner. Franchement, j'arrive pas.
Et t'as des retours clients ou pas?
Ben, il y a des retours clients.
J'aimerais savoir, par exemple, est-ce que ça bouche les toilettes après?
Ben non, justement.
Ah, c'est une très bonne question. Non. Ça, c'est trop dense.
Ben non, parce que c'est écologique, machin, anti-odeur et tout. Donc, le but n'est pas de boucher vos toilettes. En tout cas, je me rends compte qu'on a fait quand même quasi 11 minutes sur cette
D'accord, info. Merci.
C'est incroyable. Vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment que c'est réel ou pas? Moi, je sais pas, j'ai un doute.
Moi, je pense que ça peut être réel, mais je trouve dommage de se faire de la thune là-dessus plutôt que de décomplexer les gens.
D'accord.
Voilà, Stéphane.
Ouais, mais du coup, ça les décomplexe puisqu'ils ont plus peur.
Ça les décomplexe, mais
tu détournes le problème.
Voilà, c'est ça. C'est donc tu laisses dans la tête des gens que c'est une honte, et donc pour plus avoir cette honte-là, va dépenser de la thune, certainement assez cher le flacon.
C'est même pas un flacon, c'est de la poudre. J'ai vu les sachets et tout, c'est une espèce de poudre.
D'accord.
Donc j'imagine, je sais pas, que tu la mets, que ça gonfle.
Alors, excusez-moi.
Ah. Oui.
Moi, je les ai trouvés, les prix.
Alors, allez, vas-y.
Donc en ce moment, il y a une promotion, mais bien. Concrètement...
C'est le Black Friday, c'est ça? C'est le Black Friday, alors, allez.
La boîte de 10 sticks, d'accord, donc 10 ploufs.
Ouais.
20€. En ce moment, elle est à 16,99€.
Ok.
Et sinon, tu peux aller jusqu'à 120€ pour le gros stock.
On est sûr. On est sûr
besoin.
Que. Est-ce qu'on est sûr que la boîte c'est juste pour un? Parce que moi, de ce que j'ai vu, c'était pas pour un.
Je sais pas. C'est toi qui as fait les recherches, Manu, pas moi.
Ouais. Et ben justement, c'est pas pour un parce que c'est vraiment un sachet. C'est pour plusieurs. Sachet. Ouais.
Non, elle a dit 10.
Ouais. Non, mais 10 sticks. Oui, mais 10 sticks.
Mais 10 sticks, c'est comme ça peut servir quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ah, d'accord.
C'est ça. Donc.
Comme les friandises pour chat, effectivement, ouais, les sticks. Voilà.
Les friandises. Pour chat. Et j'avais vraiment préparé des petits trous pour sort. Peut-être qu'on les fera plus tard, mais je me dis, je vois l'heure qu'il est. Je me
Donc
dis...
tu nous as parlé pendant plus de 10 minutes de.
Non, mais c'était le sujet du jour.
Fécale.
C'est ce qu'on appelle le débat du jour. C'était le débat, c'était le sujet. Le
toi, t'en penses quoi, Manu, de ça, du coup, parce que.
Alors, je sais que j'avais déjà vu que ça pouvait gêner certaines personnes.
Est-ce que tu pratiques le
poucher? Moi, ça me gêne, c'est vrai.
Ça te gêne d'aller aux toilettes?
Non, au début de relations comme ça, c'est vrai que ça me gêne. Mais même chez des amis, non. Non, Ronald, c'est pas ça. Attention, Ronald, c'est pas ça. Ça me gêne pas d'aller aux toilettes chez les gens. Ça me gêne qu'on m'entende faire des choses. Et c'est ça.
Mais il y a fait. Peut-être un entre-deux entre, en fait, pourrir les toilettes de quelqu'un et mettre de la mousse dans les toilettes.
Oui, mais c'est pas ça. C'est que les gens mettent la mousse pour être sûr que ça n'arrive pas. Voilà.
Mais de la musique en fond, les gens ils entendront pas.
Surtout quand tu reviens à table,
astuce numéro 2
la vente, si tu veux.
Astuce numéro 2, mettre de la musique en fond en plus du papier toilette. Là vous êtes sûr.
Oui, c'est pas faux, c'est pas faux.
Oui.
Donc chez vous mettez tous une petite enceinte sinon dans vos toilettes.
Téléphone à fond.
Voilà. Et comme ça au moins on est sûr. Non mais c'est mieux encore encore mieux. C'est vous qui recevez. C'est vous qui mettez l'enceinte et quand la personne va aux toilettes, vous mettez vous directement la musique. Comme ça, vous la mettez bien.
C'est un peu.
tu dis, je sais ce qui va arriver. T'as peut-être
t'inquiète, détends-toi.
Mais détends-toi.
Ça reste entre nous.
Voilà, exactement. Et tu mets un petit micro et t'enregistres. Allez, on va.
C'est très mal.
On va continuer. On va passer tout de suite du coup notre premier titre de la soirée. Le premier titre qu'on va passer, c'est un titre français justement. C'est le titre de Juliette Armanet. On va écouter tout de suite son titre qui s'appelle... Excusez-moi. C'est le titre qui s'appelle tout simplement Flamme. D'accord. Vous connaissez Flamme ou pas?
C'est Sly?
Non, c'est pas Sly, justement.
C'est pas Sly?
Je savais qu'elle allait dire Sly. Allez, on écoute Flamme et on se retrouve juste après. Ensemble jusqu'à 22h dans cette émission semi-spéciale Halloween. Il n'y a pas que de l'Halloween hein, ce soir, il y a un peu tout. Et là, on vient d'écouter le titre Flamme de notre chère Juliette Armanet. On est ensemble jusqu'à 22h et on se fait plaisir. Juste avant, on vous a parlé du pop shaming et de la mousse à plouf. Voilà, c'est juste pour vous dire comment on a commencé cette émission. Incroyablement bien. Et là, on va continuer tout de suite cette émission en vous parlant de quelque chose de plus sérieux. On est en plein semi-Halloween et du coup, qu'est-ce que je vais lui mettre pour l'annoncer? Alors, attention, c'est...
De quoi parles-tu? Je comprends.
Cette émission part en cacahuète, comme souvent. Attention, c'est parti, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Ça va être un bon petit thème pour qu'elle puisse parler de ce dont elle va parler. Allez, Mathilde, c'est à toi.
Alors, moi, j'arrive pas à faire des voix comme ça, donc je m'en excuse. Mais, donc, qui dit thème Halloween dit forcément thème historique de psychopathe.
Ah, là, ça devient intéressant. On est vraiment dans le thème, là. Là, on est bien
ça
dedans.
Ça va comme ça, là, ça fait un peu peur ou
là,
pas
on
parce
est
que...
dedans.
J'essaye, hein. alors, donc, ce soir... Nous, on va parler donc effectivement des serial killers et on va faire le focus sur un bien spécifique. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous expliquer un petit peu d'où venait cette expression finalement, puisque c'est pas apparu comme ça. Voilà, il y avait des serial killers avant qu'on parle de serial killers. Avant de commencer, est-ce que vous savez en fait concrètement ce que c'est qu'un serial killer? Comment est-ce qu'on le définit?
Bah, quelqu'un qui fait plusieurs meurtres.
Non.
Non ?
Non.
C'est pas ça ?
Non, c'est pas ça.
Ok.
Même si c'est un dur en erreur, tueur en série, je suis bien d'accord.
Alors peut-être tueur en série, mais avec avec un rituel.
Qui tue toujours de la même manière.
Ouais, ou alors qu'il y a des trophées.
Qui prend un certain plaisir.
Alors plaisir, ça c'est sûr, effectivement. Ouais, il y a une dimension un peu psychologique, psychiatrique même en fait. Et c'est cette notion-là qui fait qu'on va parler vraiment de serial killer. Alors pour vous expliquer un petit peu, la première fois qu'on utilise ce terme, ça va être vraiment dans les années 70 avec le FBI, donc à Quantico, mondialement connu forcément. Et c'est l'agent en fait Robert Ressler qui va parler pour la première fois de serial killer au moment en fait du procès de Ted Bundy. Ça vous dit quelque chose, Ted Bundy?
Oui, le nom oui, mais je sais plus ce qu'il a fait.
Ça tombe bien parce qu'on va pas parler de lui ce soir. Voilà, je vous laisse.
Du coup, c'est en quelle année?
Les années 70, c'est général. C'est okay. Vraiment à partir de là et on va commencer à faire vraiment du profilage. C'est vraiment la criminologie, tout ça, c'est là que ça commence. Avant, on n'utilisait pas ce terme.
C'est pas si ancien que ça, du coup.
C'est très récent qu'on s'intéresse à ça, en tout cas dans la dimension psychiatrique, finalement, de la chose. Voilà, donc on va regarder le mode opératoire. Et un serial killer, en fait, c'est concrètement, on appelle ça un psychopathe, en fait, qui va avoir donc un mode opératoire, qui va, en fait, il peut, même dès le premier meurtre, finalement, être considéré comme un serial killer parce qu'il va avoir une pulsion qui va passer par un acte criminel, meurtrier, et en tirer du plaisir. Voilà.
Donc c'est ça finalement un serial killer.
Le mode opératoire aussi finalement.
Le mode opératoire va jouer là-dessus, voilà, c'est ça serial killer. Mais moi ce soir j'aimerais vraiment me focus sur un serial killer qui est mondialement connu, en tout cas très très connu aux États-Unis, qui est donc le docteur Henry Howard Holmes.
J'allais dire, c'est vraiment aux États-Unis, parce que moi, ça me dit rien. Ça me dit vraiment. Et vous connaissiez ou pas?
Non.
Non, est-ce qu'il a un surnom?
C'est son surnom, ça.
D'accord. Ah,
parce voilà. Que Holmes, en plus, ça fait plus penser à
Sherlock.
Sherlock, ouais.
Effectivement.
Ah bah c'est sûrement pour ça, du coup, si c'est un surnom.
Je m'attendais à un truc genre Jacques l'Éventreur ou un truc dans le genre.
Ouais, bah alors je me suis questionnée et je me suis dit, Jacques l'Éventreur, on en a entendu parler énormément de fois. Mm-hmm. On n'a toujours pas résolu l'enquête. C'est très frustrant. Du coup, j'ai décidé de passer à autre chose. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que le petit-fils, en fait, du docteur Holmes, on va dire, sous-entend que ce sont des descendants de Jacques l'Éventreur, maintenant que t'en parles. Mmh. Voilà.
Donc finalement, on y revient quelque part.
Il sous-entend. Ça veut pas dire
que c'est vrai.
Qu'on sait toujours pas qui était Jacques l'Éventreur, pour information. Donc, bref, non, nous, on va aller donc aux États-Unis et on va aller. On va aller en fait dans les années 1890. D'accord, on change de continent par rapport à d'habitude. Et pour vous faire un petit peu le topo, tu sais que cette musique me stresse. C'est terrible. Et ça, c'est horrible. Donc, on a donc le docteur Holmes. Donc, c'est Herman en fait Webster Muggets. Bref, j'ai un terrible anglais.
Nuggets.
Nuggets. On va dire Nuggets. Qui naît donc en 1860. Et donc qui meurt en 96. On verra pourquoi. Je vais aller très vite sur sa vie parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le plus, c'est ses meurtres. C'est ça qui nous intéresse le plus ce soir. Voilà. Ce qu'on va retenir avec cette petite voix, c'est que, donc il est issu d'une grande fratrie, donc un père alcoolique et violent, forcément grand classique, et une mère donc qui est vraiment très croyante, qui lui lit la Bible, donc c'est vraiment un peu schizophrénique hein, comme ambiance familiale. Et il y a un petit épisode qui va vraiment le marquer, c'est qu'il faut savoir que quand il était enfant, donc il avait 5 ans, il avait peur un petit peu du médecin de l'école. Il avait très peur de lui et ses petits camarades, parce que c'est très drôle, l'ont enfermé en fait, alors que le médecin n'était pas là, dans le cabinet, dans une armoire dans laquelle il y avait un squelette humain.
Okay. D'accord.
Donc il a paniqué, tout ça, il hurle, c'est un enfant de 5 ans quoi. Et puis petit à petit, il finit par être fasciné en fait par ce fameux squelette. Et c'est là que sa fascination morbide aurait démarré. Voilà, maintenant c'est une légende, on ne sait pas si
c'est vrai ou pas, mais
ça
en tout cas.
Ça commençait par là. Voilà, grand classique, enfant, il torturait les animaux. bien sûr. Ah, donc, ceux qui ont des enfants qui torturent les animaux, s'il vous plaît, faites quelque chose, en gros. Et en fait, donc voilà, donc c'est vraiment un fait de son enfance qui aurait été marquant, en tout cas. Et petit à petit, donc, il grandit, un homme bien sous tout rapport, hein, il fait des études de pharmacie. Et en fait, la fascination morbide, bah, continue, en fait. Et petit à petit, il finit au laboratoire par, en fait, voler les corps, les transformer et faire passer ce qu'on appelle des assurances-vie dessus. C'est-à-dire qu'il va contracter des assurances-vie avec des fausses identités. Et il va faire croire que le corps qu'il a déformé, en fait, c'est l'identité qu'il a créée. Et c'est comme ça qu'il commence à amasser un petit pactole. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, il arrive à amasser quand même presque 10 000 dollars. Donc c'est pas dégueu quand même.
Et on voit quand même la personne très intelligente.
Oui. Un peu trop. Donc je vous passe sa vie personnelle, sa vie amoureuse, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ce soir. En tout cas, voilà, d'escroquerie en escroquerie aux assurances, il finit par atterrir à Chicago et à rencontrer le docteur Holton. Donc le docteur Holton, c'est un pharmacien, ça veut pas venir ce soir, qui a un fonds de commerce en fait qui fonctionne plutôt bien, sauf qu'il est mourant. Aubaine. Donc, notre cher docteur Holmes devient en fait l'assistant de son cher pharmacien et devient finalement, une fois le docteur mort, l'amant de la veuve.
Bien joué.
Ça devient un grand classique, hein. Et en fait, la veuve décide donc de lui vendre le fonds de commerce avec des mensualités. Donc, docteur Holmes dit bah, super, ça fonctionne bien, ça se fera de l'argent. Sauf qu'au bout d'un moment, il arrête de payer ses mensualités.
Alors que le gars avait déjà gagné beaucoup d'argent quand même. Hein.
Oui, c'était voilà, mais il n'avait pas envie de payer. Et ce qui se passe, c'est que donc quand Madame Holton, waouh, dur aujourd'hui, Madame Holton, le menace d'engager des avocats parce que voilà, il lui doit de l'argent. Bizarrement, elle disparaît. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'argument, c'était bah voilà, elle est partie vivre sa vie en Floride ou en Californie, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, elle a juste disparu.
Bizarre, okay. Bizarre.
Bizarre.
On peut déjà se poser des questions sur ce qui lui est arrivé réellement.
Il vaut mieux pas se poser de questions, honnêtement, vu ce qu'il faisait. Donc, là, on a vraiment posé la base. Ok, on commence à voir le personnage.
Ça, c'est beau. Là, on a vu le personnage. Et là, j'imagine qu'après, on va partir sur ce qu'il a commencé à faire.
Chicago n'a qu'à bien se tenir.
Chicago n'a qu'à bien se tenir, attention. Est-ce que autour de ce studio, de ces micros, vous êtes prêts à entendre la suite? Est-ce que vous n'avez pas peur d'entendre cette suite? Parce que du coup, avant, ce qu'on va faire pour entendre cette suite, c'est qu'on va changer de thème, forcément.
Bah oui, c'est pas drôle.
Un thème différent, parce qu'on change. On a tout posé, toute une base, et maintenant, on revient.
Comme le docteur.
À la suite. Pour ceux qui connaissent le thème de Walking Dead, attention, c'est parti, on continue, on a posé les bases, on veut en savoir plus sur ce Dr. Holmes, sur ce serial killer qui a fait des choses incroyablement méchantes.
C'était mignon. C'était très enfantin. Alors, donc le docteur Holmes donc a sa petite pharmacie qui fonctionne bien. Et face à cette pharmacie, il voit ce qu'on appelle un terrain vague. Il l'achète et il décide en fait de créer ce que les riverains appelleront là-bas le château. Donc pour ceux qui ne connaissent pas docteur Holmes, qui était mon cas, hein, je ne connaissais pas avant de rechercher. Le château, en fait, c'est un monument sur 3 étages. Ok. Donc on va avoir au rez-de-chaussée des commerces. Tout va bien. Donc la pharmacie qui va du coup déménager là-bas, on va avoir un barbier, on va avoir plein de choses. Et au premier étage, on va avoir les bureaux du docteur, bien sûr. Et surtout, c'est surtout au dernier étage qu'on va, on va s'intéresser, le troisième, où là il va y avoir plein de chambres d'hôtel. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que on arrive au moment de l'exposition universelle qui a lieu à Chicago en 1893. Donc c'est vraiment plein de touristes qui vont arriver à Chicago. Donc c'est vraiment une aubaine finalement. Sauf que, en fait, ces chambres, elles vont avoir quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire que la structure, en fait, du château, de l'hôtel, est vraiment quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que Holmes a changé quand même 4 fois d'architecte pour être le seul à avoir les plans. toute la totalité des plans. Et toutes les deux semaines, ils changeaient l'équipe d'ouvriers. Pourquoi ? Parce que dans ce château, il y avait ce qu'on appelle des escaliers qui menaient nulle part, des trappes, des portes qu'on ouvrait sur des murs en pierre finalement. Et on avait surtout certaines chambres bien particulières, c'est-à-dire sans fenêtres, des chambres avec ce qu'on appelle des tuyaux, pour lesquels on pouvait en fait amener toutes sortes de choses, comme du gaz par exemple. On avait aussi des chambres qui pouvaient, en fait on pouvait incendier, j'arrive pas à dire le mot à chaque fois, je bégaye, donc je vais laisser Manu le dire.
Incendier ?
Non. C'est, tu sais, quand tu peux vraiment mettre le feu partout.
Ah, ignifuger.
Voilà, ignifuger. Je n'arrive pas à le dire depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'articule pas, je n'arrive pas à le dire. Donc vraiment des chambres diverses et variées, des trappes qui mènent finalement à un sous-sol avec une salle bien spécifique dans laquelle vous pourrez trouver des bacs d'acide, des énormes fours, finalement des tables de torture. Donc vous voyez un petit peu le personnage. Ouais, vous le voyez ou
ah
pas
oui,
du tout
ah là, oui, parce oui, très très bien, oui.
Moi, je me dis, j'aurais dû faire un film sur lui.
Eh ben, écoute, sache qu'ils en ont fait. Et pour ceux qui aiment donc les séries pour American Horror Story, c'est la saison, attendez que je l'ai noté, la saison 5 s'inspire de ce bonhomme-là, pour ceux qui ont vu la série.
Mais à toute la saison 5, du coup.
Toute la saison 5, c'est une saison sur un hôtel avec justement un ancien serial killer qui est un fantôme, hein, finalement. Et on s'inspire de ce personnage-là. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc notre fameux docteur a tué pas mal de ses employés, souvent des femmes, hein, c'était plutôt des femmes. Sinon, c'est pas drôle, c'est pareil. Et certains touristes aussi, quelques ouvriers, quelques amis d'enfance, pourquoi pas. Donc voilà, c'était au choix. Certains étaient vraiment brûlés vifs, d'autres asphyxiés. Parfois, proche de ses bureaux aussi, il avait des énormes coffres-forts, donc il les enfermait et en fait, il mourait par asphyxie. Voilà, il avait pas mal d'expériences à mener, finalement, ce cher docteur.
Le gars était original.
Très très original, donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué en fait les États-Unis. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que alors les estimations de meurtres sont assez variées, c'est-à-dire que la fourchette est énorme, on a de 20 minimum à 200 maximum.
Ah oui, en effet.
Voilà, c'est une fourchette qui a le truc. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il se fait attraper, mais pas pour tous ses meurtres. À la base, on commence à enquêter sur lui pour les fraudes à l'assurance. C'est vraiment ça qui a commencé à mettre l'accent en fait sur ce personnage.
Une fois, l'argent.
Ah ben l'argent toujours. Surtout que par appât du gain, en fait, il a fini par mettre le feu à son hôtel pour l'assurance. Voilà. C'était pas bien ballot en soi.
C'était pas très intelligent.
C'était pas très très intelligent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la police de Chicago ne commence pas à enquêter sur lui, même après l'incendie. Ils disent voilà, il y a une structure bien spécifique de l'hôtel, mais c'est pas grave, tout va bien. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait des Judas aussi dans les murs. Donc, vous batifoliez avec vos amis, ben. Voilà. C'est peut-être un public.
Sympa. Très sympa.
Très sympa. Donc, pour la faire courte, en tout cas, il se fait avoir à cause des assurances. Donc, il finit par changer d'état et tutti quanti. Et en fait, il ne sera condamné que pour 4 meurtres, dont 3 enfants. Fraude à l'assurance, toujours. Voilà.
Eh ben dis donc, franchement c'est quand même stupide de s'être fait avoir que pour ça, sachant quoi. Mais alors comment finalement on sait que c'est entre 20 et 200 meurtres finalement?
Alors je pense que c'est surtout avec les portées disparues, ce genre de choses. Lui il va avouer 27 meurtres à Chicago, en Indianapolis et à Toronto. Parce qu'il a voyagé quand même le monsieur, mine de rien. Maintenant ça va être compliqué de le prouver, puisque finalement vu qu'il faisait disparaître les corps, voilà, ça va être compliqué.
Eh ben, écoute, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu savoir plus sur lui, parce que du coup, c'est vachement intéressant.
Ouais.
Et on est bien dans le thème. On est vraiment dans ce thème semi-Halloween, semi-peur, semi-meurtre finalement, parce qu'on n'est pas sûr finalement. Enfin, comment on peut être sûr finalement, parce que on l'a pas arrêté pour ça.
Bah, c'est qu'au final, ces versions sont diverses et variées. Après, ça, en fonction des criminels, c'est souvent le cas. Maintenant, c'est vraiment des suppositions. Son petit-fils a écrit un livre, mais j'en ai oublié le nom et je m'en excuse.
Il était marié, a eu des enfants, cet homme-là, qui ont eu.
Oh oui,
des
et enfants. Il a tué un de ses enfants d'ailleurs. Je vous ai épargné une bonne partie. En fait, il a eu 4 femmes. Enfin, il a eu 4 amantes reconnues, 3 femmes, et en fait, la seule qui en a réchappé, c'est sa première qui a fui avec son enfant.
D'accord.
Voilà.
La plus intelligente.
Voilà, les autres sont toutes mortes, donc c'est un peu compliqué. Et son petit-fils, en fait, se serait fondé sur ses journaux intimes. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, où s'arrête, voilà, où s'arrête la réalité, où commence le mythe, ça, c'est à vous de décider.
Ah, c'est facile, ça, de nous dire que c'est à nous de décider.
Je vous laisse ça comme ça.
C'était plus facile avec le poop shaming. En tout cas, merci Mathilde pour ce petit moment d'horreur, ce petit moment à la Pierre Belmar.
Je sais pas comment le prendre, ça.
Bah écoute, bien, je trouve qu'on peut bien le prendre.
Ah hein. Si, Belmar, il était reconnu quand même
bien
dans
sûr.
Ce domaine.
C'est pour
ah,
ça si, que si, je dis qu'on on peut. En tout cas,
On fait un bisou à Stéphane Bern quand même. Toujours, je tiens à le dire. Non, faut pas oublier les bonnes habitudes.
On lâche pas Stéphane. Voilà, donc vous l'avez compris. Voilà, le thème serial killer, vous avez compris d'où ça venait, comment c'est arrivé. On a parlé d'un serial killer et pas n'importe lequel, puisque le docteur Holmes, quand même, avait un hôtel spécialisé dans, pour lui, en fait, finalement.
C'était la fête foraine des serial killers.
Voilà, et entre 20 et 200, 20 c'est déjà pas mal quoi qu'il arrive, c'est déjà beaucoup, mine de rien.
On s'approcherait plutôt des 100, enfin les suppositions vont plus vers le 100, mais déjà une centaine...
De toute façon, il y avait forcément du sang, et on est bien d'accord.
Pas
On est bien d'accord là-dessus, et encore une fois, voilà, on est dans le monde des serial killers. Nous, on va passer à la seconde pause musicale. On va écouter le titre de A Craze.
Tu as du mal ce soir.
A Craze Cherish, ça s'appelle Do It To It, et on se retrouve juste après. Ensemble jusqu'à 22h, et je vous l'ai dit, ce soir c'est une spéciale semi-Halloween. On peut pas dire Halloween parce que déjà Halloween est passé, parce que on met pas que de l'horreur dans cette émission, on met aussi du fun, on met aussi du rire, on met aussi de la peur, on met un peu de tout ce soir. Et pour preuve
Arrête Manu, tu fais peur. Non, vraiment, tu fais peur avec
et
ça.
Et c'est le rire de la peur. C'est celui de mon déguisement, d'ailleurs. J'étais déguisé en ça, le clown. Et oui, j'étais déguisé en ça pour Halloween. Et vous verrez, on vous mettra les photos. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram, IDFM Radio. La radio qu'il faut écouter. Et oui, c'est très très important. Écoutez-nous, continuez à nous écouter. De 21h à 22h, mais toutes les autres émissions juste après, nous avons Vince avec Positive Vibration. Et on est ensemble jusqu'à 22h. Vince vient juste après, mais nous, tout de suite, il faut continuer à nous écouter. Tout de suite, j'avais envie de dire, on va écouter la chronique de notre cher Ronald, mais il n'en a pas.
Oui, j'étais censé en faire une, mais...
Mais t'as pas eu le temps de la préparer.
C'est on ça va dire ça.
On va dire ça, ouais. C'est ça.
Et y a eu un J'ai eu trois ans quand même pour la préparer.
T'as eu mais... 3 ans, ouais, c'est ça, ok, très bien. Mais il n'a pas eu le temps.
Il a aidé pour la création du... La mousse à plouf. C'est le temps de... C'est ça, les 3 ans.
C'est ça. J'ai 3 ans pour la création. La mousse à plouf. En fait, c'était toi, le Jimmy, là. D'ailleurs, je dis Jimmy, mais je crois que c'était pas Jimmy. J'ai oublié son prénom. En tout cas. Oui. Jérémy Briffaut, Monsieur Briffaut qui a.
T'étais la seule à écouter Anaïs.
Elle a pris des notes et tout.
Ouais, attends. Ouais, très studieuse.
Elle en a besoin. C'est pour ça qu'elle a retenu. Hein, c'est pour ça. Et, elle est désolée, elle est désolée. Et du coup, tu sais quoi? Moi, je sais que ce qui est bien avec toi, Anaïs, c'est que si je te prends au dépourvu comme ça, si je te pose une question, si je te dis aujourd'hui, si on parle de rituel, en rapport, évidemment, avec ce thème d'Halloween, si je t'en demande, allez, un comme ça, tu me parlerais de quoi?
Alors, je te parlerai d'un rite funéraire, forcément, pour rester dans le thème Halloween.
Ok, vas-y.
Et c'est quand même quelque chose, finalement, qui... Alors, ça peut faire peur si on se balade en Indonésie.
Attends, t'as raison.
Ça peut faire...
Non, mais ça ne fait pas peur, justement. T'es sûr de toi, ça
c'est
fait pas peur?
C'est très bienveillant.
Ok, alors, si c'est bienveillant, tu sais quoi? Regarde ce que je vais te mettre pour le côté bienveillant. Bouge pas, il n'y a pas plus bienveillant que ça. Alors ça, tu te calmes, pourquoi tu fais ça? Merci, calme-toi. Attention, c'est parti. Voilà, nous sommes dans le bienveillant.
Donc si voilà, si en effet ça peut faire peur si on se balade en Indonésie, dans les montagnes et plus précisément dans la région Sulawesi. Tout à fait, c'est une région montagneuse du sud de l'Indonésie.
Très bien.
Et dans lequel on peut trouver donc une ethnie nommée les Toraja. Je vais y arriver, excusez-moi.
Oui, alors les Toraja, très bien.
Les Toraja, voilà.
En Suezini, Eni, ok, on continue,
et
vas-y.
Donc, chez les Toraja, alors déjà, quand quelqu'un décède, il n'est pas considéré comme étant mort, il est considéré comme étant malade. Ah. Donc, tant que la personne n'est pas enterrée, on va la garder chez soi et on va la traiter comme un vivant malade. Donc on va s'en occuper, on va lui donner à boire, on va lui donner à manger, on va même lui donner des cigarettes.
Alors qu'il est mort.
Alors qu'il est mort, mais
est-ce qu'on lui allume la cigarette?
Alors, j'ai... Ouais. D'ailleurs, je vais vous montrer à tous une photo.
On vous mettra.
Voilà.
Ok. Le gars est mort. On voit
le
vraiment.
Le gars est mort.
La personne, on vous enverra des photos, vous verrez. Vous verrez.
Ouais, moi, je crois pas, il est vivant.
Il est juste vieux, c'est tout. Il est vivant, mais il est vieux.
Donc, quand il est malade, on dit que cette personne est un tomakula. C'est quelqu'un donc qui est mort, mais chez eux qui est donc malade. Et donc, en fait, il est officiellement mort lorsque les buffles qui servent d'offrande, lorsque le buffle d'eau rend son dernier souffle.
Attends,
ça arrive souvent ça
c'est,
ou...
c'est compliqué quand même, non?
Ouais.
ouais, c'est compliqué.
C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, la personne morte, elle peut rester donc dans l'habitation des mois, voire des décennies, le temps que le clan organise une cérémonie en bonne et due forme. Ce qui peut prendre relativement de temps, étant donné que il va falloir faire des offrandes à la famille, il va falloir sacrifier des buffles, les buffles ont un coût et que ça peut monter donc très vite, sachant que le buffle est le véhicule finalement vers les cieux,
va dire. Donc plus il y a de buffles et plus le mort est accompagné.
Comme il faut.
Comme il faut,
il est bien accompagné.
Dans l'eau de l'action, c'est un buffle par mort ou on peut faire un prix de groupe?
Non, 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 plus il y en a justement.
Mais c'est pour un mort?
Oui, ouais. c'est ce qu'elle disait.
Parce qu'il y a une liste d'attente du coup. C'est-à-dire que si tu
essaies de faire une blague, attendre...
Non, je demande.
C'est-à-dire qu'en fait,
ça peut attendre des décennies. Il y a plein de morts. Enfin,
ah oui. Mais là, quand je parle de plusieurs mois,
j'écoute Manu. D'accord, je ne fais pas de blagues. J'écoute.
Quand je parle de mois ou d'années, c'est pour organiser la cérémonie d'un seul mort.
Donc il y a une liste d'attente. Là, c'était une blague.
Très bien. Donc voilà, donc le corps est conservé jusqu'à donc la cérémonie. Elle est entretenue, le corps est entretenu donc dans la maison des Toraja, que l'on appelle le Tonkonan. Et donc voilà, il est conservé, il est choyé, il est nettoyé, il est habillé, ce genre de choses. Donc lorsqu'on a récolté assez d'offrandes et de buffles pour offrir une cérémonie digne de ce nom aux défunts, là à ce moment-là, donc le corps est enterré et il est enterré donc dans des tombes creusées dans des falaises. Où sont regroupées les familles.
Dans des falaises. Les gars, déjà, il leur faut des buffles. Et en plus, après, il leur faut des falaises, quoi. T'sais, ils peuvent pas faire ça, même le sol et tout. Non, dans la falaise, quoi.
Dans la falaise.
Il leur faut toujours plus.
Exactement. Donc, on peut trouver des petites effigies de bois représentant les défunts, qui sont disposées donc dans les petites niches à côté des tombeaux. Ces effigies sont le signe du lien, en fait, entre les vivants et le défunt. Et donc, tous les ans, au mois d'août, les Toraja déterrent leurs morts, prennent le soin encore une fois de les nettoyer, de les habiller, de les promener même dans le village, pour encore une fois alimenter ce lien entre les morts et les vivants et finalement, alors je dirais pas faire vivre, mais
ça c'était un coup bas.
Mais voilà,
ça fait pas vivre le défunt, mais ça fait vivre sa mémoire.
Exactement. Exactement, et dans la tradition, il faut savoir aussi que c'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui promet une bonne récolte du riz pour l'année à venir. Dans leur
Donc finalement, il vaut mieux du coup finalement qu'il y ait beaucoup de morts pour avoir beaucoup de riz.
Mais il faut beaucoup de buffles.
Ouais, il faut beaucoup de buffles et ça coûte très cher.
Ça coûte très cher. Et ben,
en parlant d'argent.
Oui.
J'avais une petite question. Est-ce qu'on sait s'il continue à percevoir sa retraite pendant ce temps-là?
Oui, parce qu'il est pas vraiment mort, il est malade.
C'est ça.
La sécu, ça y va fort.
Tu vois, Holmes, il avait rien compris en fait. Il fallait juste aller dans ce coin-là.
C'est ça. Mais voilà.
Est-ce que seulement ils ont une retraite là-bas?
C'est bienveillant parce que finalement, on prend soin de nos morts. Mais ça peut faire peur parce qu'en effet, si vous vous baladez dans cette région montagneuse de l'Indonésie en plein mois d'août, vous pouvez voir des balades de morts.
Ça peut surprendre. Et du coup, quand ils baladent leurs morts, est-ce qu'ils leur redonnent des cigarettes ou pas?
Oui. Ils les baladent, ils les habillent, ils les nettoient, ils en prennent soin, ils leur donnent à manger, à boire et des cigarettes.
Voilà quelque chose d'incroyable. Et on reste évidemment dans notre thème. Et ça, c'est bien. On reste vraiment dans ce côté Halloween.
Un peu macabre, quoi.
Exactement. Et avant la fin de cette émission, j'espère que tu pourras me redonner, réfléchis à une petite idée comme ça de si t'as un autre rite en tête, tu réfléchis. Nous, on va se faire vite fait une ou deux petites infos et on reviendra vers toi justement pour pour en savoir plus. Voilà, allez, on va se faire justement, on va rester dans ce côté un petit peu sensuel qui est la mort. Non, je déconne. Allez, soyons sérieux 5 minutes. On va faire ce petit trou tout de suite. La police de Westlake dans l'état de l'Ohio a pu identifier un homme qui tentait son fils. Dans l'état de l'Ohio, a pu identifier un homme ayant tenté...
C'est censé être insolite.
Son fils.
Est-ce qu'on est toujours dans le thème Halloween?
Est-ce qu'on est dans le thème macabre?
On est dans plusieurs thèmes.
D'immoler son fils.
Tu vas un peu loin. Ça reste quand même une info insolite.
Kidnapper son fils.
Non. Ronald, fut un temps, il y a 3 ans, t'étais pas mauvais sur ce jeu-là.
D'enterrer vivant son fils, non.
Non. Attention, qui va avoir la bonne réponse?
Bah là, c'est foutu, là.
Ok, c'est foutu, très bien. Ouais. Eh bien, il a tenté d'éliminer son fils. L'homme s'est fait...
J'ai dit mais j'allais trop loin, très bien.
L'homme, s'est en fait trompé de numéro en voulant contacter le tueur à gages censé abattre son fils.
Il a appelé la police.
Le 13 octobre, un commerce de la ville a ainsi transmis aux autorités des messages vocaux suspects reçus sur son répondeur. C'est un contrat de $5,000 sur lui. Je m'en bats les couilles de là où il est ou de ce qu'il fait. Où va ou avec qui il est.
T'en perds ton latin.
Ouais, pardon. Peut-on notamment entendre sur l'enregistrement rapporté donc par les médias américains. Donc imaginez un petit peu quand même ce qui a été dit. Hein. Dans un premier temps, les enquêteurs ont cru avoir affaire à une farce avant de découvrir que l'appelant avait simplement mal composé le numéro de téléphone du tueur à gages. Le lendemain, les policiers ont donc procédé à l'arrestation de Desmond Ramsey, 58 ans. Il a admis les faits en attribuant sa volonté de tuer son fils à une récente donc dispute avec lui et à l'alcool, accusé de complicité de meurtre. Il est détenu avec une caution de $500,000. Après avoir appris les menaces, la menace pesant sur ses épaules, la victime a pourtant refusé toute protection policière. Voilà, donc imaginez ce qui peut arriver.
Alors, c'est terrible ce que tu viens de raconter. Mais c'est quand même dingue de se faire attraper parce que tu t'es trompé de numéro.
Ouais.
C'est vraiment des débiles, quoi.
De toute façon, il a déjà fait ça sous le coup de l'alcool et tout ça, donc le coup de l'alcool et la colère. Allez, on reste dans ce côté un peu... Voilà, vous l'avez compris. Dans le monde du funéraire, les mentalités donc évoluent et nous entendons de plus en plus souvent parler donc de funérailles écologiques. Comme nous en avions discuté dans une autre émission, la Californie donc vient d'accorder le droit au compost humain, donc effectif dès 2027, on en avait parlé dans cette émission. Il existe aussi des forêts cinéraires dans lesquelles nous pouvons choisir de faire enterrer une urne biodégradable au pied d'un arbre, mais qu'en est-il du transport du cercueil entre le funérarium ou l'église et le cimetière? Souvent, il se fait dans un corbillard, plutôt bruyant et fonctionnant au gazole, alors que les trajets entre les lieux sont parfois minimes. À Paris, Isabelle Plumero a décidé de changer les choses et a inventé la Allez, on y va, c'est parti.
En fait, j'essaye de trouver le terme qui pourrait retranscrire mon idée. Ils y vont à vélo?
La vélo. C'est facile en fait.
Vélo, mais corbillard, tu vois, un corbillard.
Ah oui, je l'ai vu, je l'ai entendu, le corbi-vélo.
La corbicyclette.
Corbicyclette, ouais.
Eh ouais, le premier vélo cargo corbillard de France découverte.
Faut vachement bien pédaler quand même.
Depuis la fin du mois d'octobre, elle ne passe pas inaperçue quand elle parcourt le 15e arrondissement de Paris. La corbicyclette est un vélo triporteur électrique de plus de 2 mètres de long, dont la remorque a été aménagée en corbillard. Les retours des badauds sont assez unanimes. Ils pensent que ce corbillard écologique peut être une très bonne idée et qu'il plaira aux bobos parisiens, aux bobos peut-être, mais également à tous ceux qui souhaitent les funérailles respectueuses de l'environnement, et ils sont de plus en plus nombreux. Pour la fondatrice, le vélo cargo corbillard a plusieurs bénéfices. Bien entendu, elle est avant tout un moyen de déplacement écologique, mais elle roule aussi plus lentement qu'un corbillard classique sans aucune émission de gaz, ce qui, pour les proches qui suivent le cortège, évite les gaz d'échappement et en plus propice au recueillement. Elle explique aussi que le cortège en corbicyclette avance sous le gazouillis des oiseaux plutôt que sous le vrombissement d'un moteur, et que c'est bien plus agréable pour chacun. Enfin, elle explique que les pentes sur le chemin du cimetière ne sont pas un souci, car son vélo cargo peut transporter jusqu'à 200 kilos dans sa remorque. Alors juste à savoir rapidement, parce que j'aimerais quand même entendre une petite info rapide de notre chère Anaïs, sachez que pour l'instant, ça coûte aussi cher qu'un corbillard, parce que ça lui a coûté plus de 20 000 euros déjà pour mettre tout ça en place, mais qu'après, elle devrait rectifier ses tarifs en fonction du coût réel que ça va lui coûter. J'ai fait simple, j'ai pas tout dit, mais au moins on a les principales choses. Anaïs, est-ce que tu as une petite info rapide, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et on rend à 57. Une petite, un petit rite un peu sympa, un petit peu.
Bah, il y a des.
Enfin, sympa, il y a rien de sympa dans un rite comme ça.
Il y a rien de sympa, mais... surtout que là, c'est peut-être un petit peu moins bienveillant que ce qui se passe en Indonésie. Faut savoir qu'à Lhasa, au Tibet, on offre nos défunts aux vautours. Donc,
Mais moi, je trouve ça sympa, en fait. Parce que je me dis, le gars, c'est un défunt, et il finalement, si tu le mets en terre, bon, c'est bien, il va servir aux asticots. Là, pour changer, il va servir donc aux vautours. C'est bien.
Et exactement, mais ça fait partie. Non, mais en plus, c'est pas des bêtises. Justement, ça sauve aussi l'écosystème parce que effectivement, bah, plutôt que de manger les petites bêtes que les vautours auraient pu manger, donc ils s'occupent des défunts. Et faut savoir que ces vautours sont des dakinis, donc ce qui représente en fait une sorte d'ange qui opère la transition entre le ciel et la terre. Donc voilà, il y a le corps et l'âme qui sont deux parties bien distinctes. Et une fois que la personne est décédée, donc l'enveloppe corporelle, étant donné que l'âme est montée au ciel, l'enveloppe corporelle n'est plus qu'une coquille. Et donc les vautours peuvent s'en charger. Voilà.
Ah oui, donc c'était vraiment très très rapide. Mais
est-ce qu'on a une idée de la recrudescence d'attaque de vautours sur les humains, du coup, suite à ça?
Non. Non, mais en tout cas, voilà, c'est en aucun cas c'est outrancier.
Ouais, dans ce cas-là, tu fais pas une sieste, en fait, c'est juste ça.
C'est ça.
Non, mais c'est quand même incroyable de se dire c'est vrai qu'on découvre à chaque fois des rites, on se dirait pas que ça peut exister, ce genre de choses, mais en même temps c'est une autre culture, c'est d'autres cultures, c'est d'autres choses qui se font. Il y a, comme on l'a dit, il y a certainement une raison, hein, t'as donné la raison pourquoi ils font ça, mais c'est vrai que c'est fou.
C'est ça. Alors, ça avait quand même été interdit par les autorités chinoises il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, voilà, ces funérailles célestes sont de nouveau acceptées au Tibet et protégées par le gouvernement.
Mais du coup, je me pose aussi la question, finalement, c'est-à-dire, ils vont finalement mettre tout ça dans un endroit, enfin, ils vont mettre ces corps dans un endroit qui doit être loin de la population, parce que le temps que le vautour mange, etc., enfin, il doit se passer du temps quand même.
Oui, c'est ça. Bah là, pareil, il y a une image, hein, comme tout à l'heure, donc ça se passe dans une sorte de désert, finalement.
C'est une armée de vautours.
Et voilà, on y voit une armée de vautours.
C'est un spot, hein.
Wow.
C'est ça.
Ah oui, donc ça va se manger
très
vite.
C'est rapide,
c'est rapide. C'est rapide. Allez, je pensais pas que ça se faisait comme ça. Ben écoute, merci en tout cas Anaïs d'avoir été dans ce thème jusqu'à la fin. Nous, on va se quitter dans une minute à peu près, on va se quitter. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à Ronald pour cette surprise. Merci à Anaïs pour ses rituels qui me feront faire des cauchemars ce soir. Mais je crois que le plus gros cauchemar, je le ferai avec Dr Holmes ce soir. Donc merci Mathilde.
Avec plaisir Manu.
Ses chambres bizarres dans son château. Juste après nous, vous allez revenir sur un peu plus de gaieté avec Vince et Positive Vibration. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission, un autre thème, d'autres musiques et une autre façon de présenter, parce que je pense que je vais changer de façon de présenter à chaque fois.
Il y a d'autres
Il y aura plus de cette fois-ci certainement, parce que là il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, il y en aura d'autres. En tout cas, profitez bien de votre semaine. Courage à vous. J'allais dire profitez de votre week-end. Je suis encore habitué au vendredi. Nous sommes lundi, donc profitez de cette semaine. Courage à vous. On est là avec vous. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci à Roro. Merci à Anaïs.
Joyeux
Merci Halloween. À Mathilde.
Merci. À toi.
Et très bonne soirée à vous. Ciao, bye bye.
Bye.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.